Une bruine épaisse tombant du ciel, tel un soudain mouvement de rideau. Puis les oiseaux cessèrent d'accorder leurs cris, l'océan se tut. Sur l'eau, les lumières des maisons s'atténuèrent. Deux personnes s'en venaient sur la plage. Elle était blonde et osseuse dans son bikini vert, bien qu'on fût en mai dans le Maine et qu'il fît froid. Il était grand, vif. Une lumière l'animait, qui attirait le regard, le capturait. Ils s'appelaient Lotto et Mathilde. L'espace d'une minute, ils contemplèrent une mare remplie de créatures pleines d'épines, qui, en se cachant, soulevaient des tourbillons de sable. Il prit son visage entre ses mains et embrassa ses lèvres pâles. Il aurait pu mourir de bonheur en cet instant. Il eut une vision. Il vit la mer enflée pour les ravir, emporter leur chair et rouler leurs os sur ses molaires de corail dans les profondeurs. Si elle était à ses côtés, pensa-t-il, il flotterait en chantant. Certes, il était jeune, 22 ans, et il s'était marié le matin même en secret. En ces circonstances, toute extravagance peut être pardonnée. Ses doigts fins à l'arrière de son boxeur lui brûlaient la peau. Il la regarda, pensif. Il y avait 2 semaines qu'il l'aimait de toutes ses forces. Et l'aimant ainsi, considérait qu'elle était transparente, une plaque de verre. Il voyait à travers elle, jusqu'à sa bonté intérieure. Mais le verre était fragile. Il lui faudrait prendre des précautions, songeant qu'ils s'appartenaient profondément l'un à l'autre, avec certitude.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Lancelot, que tout le monde appelle Lotto, est l'archétype du jeune Américain parfait. Il est beau, rayonnant même, adoré par sa riche famille de Floride et par ses camarades. Le jour de sa remise de diplôme, il rencontre Mathilde, qui, elle aussi, termine son cursus universitaire. Solitaire et secrète, cette grande blonde séduit Lotto, qui l'épouse sur le champ, entraînant le courroux de sa mère qui lui coupe les vivres. Le couple vit dès lors du seul travail de Mathilde dans une galerie d'art. Lotto essayant en vain de percer en tant qu'acteur. Le succès arrivera lorsque, poussé par sa femme, il se mettra à écrire des pièces acclamées par la critique. Couple parfait aux yeux de leurs amis et du tout New York, ils vont traverser les folles années 80 de fête en fête, auréolés par la gloire de Lotto et la dévotion de la si parfaite Mathilde, jusqu'à la crise cardiaque qui fera d'elle une veuve, dévastée par l'absence, pleine de rage et de fureur, revisitant alors sa vie d'enfant abandonnée, de jeune fille abusée et d'épouse pleine de lourds secrets. En 2015, lorsque parut aux États-Unis Fates and Furies, Barack Obama l'avait proclamé meilleur livre de l'année. Le voici qui débarque en France sous le titre Les Furies, dans une traduction de Karine Chichereau pour les éditions de l'Olivier. Son auteur, Lorraine Groff, a écrit, dit-elle, un livre subversif sur le mariage et la réussite sociale, en le dissimulant sous des dehors de romans classiques. 2 livres en un seul, en fait, parce que dans la première partie, l'histoire est vue par les yeux de Lotto, mâle dominant, persuadé de maîtriser parfaitement sa vie et son couple. Et dans la deuxième partie, c'est la version de Mathilde que l'on découvre, bien différente de celle de l'homme de sa vie. Un mariage, on le sait, se révèle davantage dans ses secrets que dans ses apparences. Lorraine Groff, nul doute, a tout lu sur la question, de Shakespeare à James Salter, d'Henry James à Jeffrey Eugenides, et avant de partir sur leurs traces, elle a trempé sa plume dans l'acide. Les Furies est un livre drôle et dérangeant, intelligent et drôlement culotté. Et Lorraine Groff est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde. Xavier Combes sera notre interprète.
Comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin. La grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera était et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves ne souvenaient pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoit et que les étoiles ne brillaient pas. L'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
Bonjour Lorraine Groff.
Bonjour.
En 2015, votre meilleur attaché de presse se nomme Barack Obama.
Oui.
Il a dit que ça avait été sa lecture la plus formidable de l'année 2015. Est-ce que ça a changé quelque chose, sûrement dans l'accueil du livre pour vous, mais pour vous personnellement, qu'est-ce que ça représentait d'avoir été lu par un homme puissant et dans un livre qui parle de l'importance des femmes des hommes puissants?
Oui, c'est vrai. Et j'adore Barack Obama. Alors, I'm going to respond now in English. But I actually didn't have much of a readership among men in the United States at that point.
Mon lectorat n'est guère masculin aux États-Unis.
I don't know exactly why I think men tend to not read.
Je ne sais pas pourquoi les hommes n'ont pas tendance à lire les écrits d'écrivaines. Mais le président est un homme extraordinairement intelligent, très bon lecteur. Il a lu mon livre, ce qui a encouragé d'autres hommes à le faire. Du reste, j'étais pas particulièrement impressionné par le fait que le président lise mon livre, mais c'est Barack Obama quand même, c'est différent. J'adore ses écrits à lui, c'est un écrivain hors pair, brillant, et quel meilleur compliment que celui d'un bon écrivain. Par ailleurs, il m'a écrit un petit mot à la main, je l'ai encadré, je l'ai mis chez moi, et cela me donne beaucoup d'espoir même en cette période politique quelque peu sombre.
Vous pensez, Lorraine Groff, que Michelle Obama lui a dit « c'est le meilleur livre de l'année » et que ça a quand même un sous-entendu?
I think she chose a different book. She chose
non, Michelle Obama a choisi le livre de Ta-Nehisi Coates. Mais Barack Obama, c'est un féministe, c'est évident. On voit ça à l'aune de ses politiques. Il est entouré de femmes puissantes, et ses filles, et sa femme. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il est assez rare
women presented in American fiction that are really
soient considérées comme des écrivaines complexes dans l'univers littéraire américain. Donc la réponse de Barack Obama est d'autant plus intéressante.
Lauren Groff, dans votre livre qui en anglais s'appelle Fates and Furies et qui en français est, simplement s'appelle Les Furies, c'est le portrait d'un mariage, pas seulement, mais c'est vrai qu'on pense à des livres qui ont parlé des mariages et des femmes dans le mariage. On pense à Henry James pour Portrait d'une femme, à James Salter pour Light Years, Un bonheur parfait, ou Jeffrey Eugenides, Portrait du mariage. Il y a aussi Shakespeare, il y a aussi les mythes grecs, Sophocle. On se dit que vous avez voulu, vous aussi, vous inscrire dans cette lignée d'écrivains qui ont parlé du mariage pour en révéler la face publique et la face cachée. Est-ce que ces auteurs dont j'ai parlé, Eugenides, Salter ou James, ont été pour vous des inspirations?
I love all of those authors that you mentioned.
Tous ces auteurs que vous avez cités, je les adore. Cela dit, ce sont tous des hommes et leur vision est différente de la mienne. Par ailleurs, lorsque l'on regarde l'histoire littéraire et la vie de couple telle qu'elle est décrite dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'exemples de bonne vie de couple sans infidélité. Il y a beaucoup de livres qui portent sur l'adultère quand même. Mais moi, je voulais trouver une source de tension externe à la sexualité. Donc, moi, j'ai trouvé des sources exogènes d'influence. Mais, en toute vérité, moi, je considère la vie de couple comme un thème qui n'est pas central à ce roman. En réalité, c'est un truchement, un vecteur en quelque sorte. Parce que ce qui m'intéresse plus particulièrement, moi, c'est la notion de privilège et les règles qui régissent la vie des hommes et des femmes dans la société et les privilèges cachés que l'on trouve dans notre univers à l'heure actuelle, particulièrement au sein d'une vie de couple traditionnelle.
Effectivement, Lauren Groff, les privilèges sont là dès le début, dans la première partie du livre. Parce que, en fait, votre livre, ce sont deux livres.
Oui.
Il y a un premier livre, un deuxième livre. Ils auraient pu paraître en tome 1 et tome 2.
I wanted it to be two books.
Eh bien, c'était mon intention. Pendant cinq ans, j'avais l'impression d'écrire deux livres en parallèle que l'on aurait pu lire l'un avant l'autre, ou l'autre avant l'un. Il y a Evan S. Connell, écrivain américaine, Mrs. Bridge et Monsieur Bridge, voilà, ces deux tomes. Il y a eu un film avec Paul Newman et son épouse, inspiré de ces livres. Moi, je n'ai pas vu ce film, mais j'adore ces romans. Et il y a Jane Gardam, écrivaine américaine contemporaine, qui elle aussi a écrit une série de livres sur une vie de couple. Et c'est un des meilleurs livres des 50 dernières années, qui est Old Filth, à mon avis. C'est drôle, magnifique, ce livre. Mais moi, je me suis dit que je voulais écrire un livre comme cela. Cela dit, voici ce qui s'est passé. Au bout de 5 ans, j'ai donné le manuscrit à mon agent, qui l'a lu, et qui a dit, eh bien, ça ne va jamais se vendre en deux tomes, ça. Et il faut savoir que tu as créé une vie de couple avec ces deux visions autonomes en un seul livre. J'ai pleuré. Mais après cela, je m'en suis remise et j'ai pu comprendre que mon agent n'avait pas tort.
Lauren Groff, je pense qu'il avait tout à fait raison parce que, je dois dire, j'ai parlé avec des gens autour de moi qui ont lu votre livre et qui l'ont beaucoup aimé, ce qui est mon cas également. Mais la première partie, celle qui concerne le destin de Lancelot, de Lotho, le mari du couple, on le lit, on se dit, bon, on a déjà lu ça, on a lu J. McInerney, voilà, c'est la génération des années 90, un fils de riche à qui tout réussit. Il est beau, il est trop beau, tout le monde l'aime trop. On se dit, oh là là, et puis tout d'un coup, quand on arrive dans la deuxième partie, on relit toute la première partie d'une manière complètement différente. Et le livre est là, il est dans cette lecture de la deuxième partie qui change complètement notre perception de la première. Et je me suis demandé, quel sentiment vous éprouviez à l'égard de Lancelot, de Lotho, ce garçon qui a un soleil rayonnant en lui, à qui tout réussit, que tout le monde aime. En fait, c'est un récit de vie terriblement ironique.
C'était fait exprès.
Dans la première partie, on voit la vie de Lotho. Lotho, c'est l'incarnation de l'endroit où je vis. il y a de la vulgarité, il y a du soleil, il y a de la bizarrerie dans l'esprit des gens. Dans la première partie du roman, j'ai voulu m'intéresser aux récits que nous avons déjà lus, les livres d'initiation, les livres de campus, l'opéra, la mythologie, même la vie romantique de la cour. Je voulais intégrer cela dans la première partie pour y apporter de la beauté. Ainsi, dans la seconde partie, je voulais prendre une petite aiguille et faire en sorte que le ballon de baudruche éclate. Parce qu'il y a là beaucoup d'idées préconçues que l'on se fait, des idées sur lesquelles on compte depuis des années. Je voulais remettre cela en question et mettre en avant une idée plus féminine sur le récit. Et je voulais également parler de l'écriture elle-même et, comme je vous l'ai déjà dit, de la notion de privilège.
Alors, selon Slow, fils de famille riche qui vient de Floride, tout lui réussit. Il a des fêlures, bien sûr. Sa première, c'est la mort du père. La deuxième, c'est qu'il est un acteur raté. Et tout d'un coup, au cours d'une nuit de beuverie, parce qu'il boit beaucoup, il se rend compte qu'il a peut-être quelque chose à dire et il écrit sa première pièce de théâtre qui va faire de lui, grâce à sa femme, un dramaturge encensé. On écoute cette nuit d'introspection de Lancelot.
Il écouta la respiration de sa femme se transformer en ronflement et se demanda comment il en était arrivé là. Ivre, seul, macérant dans l'échec. Le triomphe était assuré. Simplement, il avait effrité son potentiel. Un péché. 30 ans et il n'était rien. Ça vous tue peu à peu l'échec. Ainsi que l'aurait dit Sally, il s'était saigné à blanc, petit à petit. Peut-être l'aimons-nous mieux ainsi, devenus humbles. Ce soir, il comprenait sa mère qui s'était enterrée vivante dans sa maison sur la plage. De plus risquer les souffrances qu'inflige le contact avec les autres, il écouta la force noire qui battait au-dessous de ses pensées. Elle était là depuis toujours, depuis la mort de son père. Lâcher prise, le fuselage d'un avion pourrait tomber et le clouer par terre. Un petit déclic dans son cerveau et il s'éteindrait. Une paix bénie. Enfin. Il y avait des cas d'anévrisme dans sa famille. Son père en avait été victime soudainement, à 46 ans, bien trop jeune. Et tout ce que Lotto voulait, c'était fermer les yeux. Retrouver son père, poser sa tête sur sa poitrine, le sentir, entendre les chaudes pulsations de son cœur. Était-ce trop demandé? L'un de ses parents l'avait aimé. Mathilde lui avait suffisamment donné, mais il l'avait écrasé. La foi brûlante qu'elle lui témoignait avait perdu de sa ferveur. Elle avait détourné les yeux. Il l'avait déçue. Mon Dieu, il était en train de la perdre. Et si elle partait, si elle le quittait, sa valise en cuir à la main, sa fine silhouette qui ne se retourne pas, alors autant être mort. Lotto pleurait. Il le comprenait à cette sensation froide sur sa figure. Il essayait de ne pas faire de bruit. Mathilde avait besoin de dormir. Elle travaillait 16 heures par jour, 6 jours sur 7. Il lui devait le gîte et le couvert. Il n'avait rien apporté dans leur couple, seulement de la déception et du linge sale. Il sortit l'ordinateur portable de sous le canapé, où il l'avait fourré quand Mathilde lui avait demandé de mettre de l'ordre avant que les invités arrivent. Il voulait aller sur Internet, être en lien avec les âmes tristes de ce monde. Mais à la place, il ouvrit un nouveau document Word, ferma les yeux et songea à ce qu'il avait perdu. Son état d'origine, sa mère, cette lumière qu'il savait naguère allumer chez les autres, chez sa femme, son père. Tout le monde avait mésestimé Gawain, parce qu'il était discret, peu instruit. Pourtant, lui seul avait compris la valeur de l'eau, emprisonné sous les terres familiales, couvertes de fourrés. Il avait exploité cette source, il avait vendu son eau. Lotto pensa aux photos de sa mère, jeune, du temps où elle incarnait une sirène, sa queue de poisson enfilée comme un bas sur ses jambes, ondulant dans les sources froides. Il se rappela lorsqu'il plongeait sa petite main dans la source, les eaux glacées, engourdies. Combien il aimait cette sensation de douleur.
Lorraine Groff, ce portrait de Lancelot défait, parce que d'habitude il est glorieux dans votre livre Les Furies, ça me fait penser que, en fait, vous n'avez pas une grande affection pour ce personnage. Vous le traitez avec une certaine pitié, mais pas beaucoup d'amour.
Oh no, I love him.
Ah bon, je les aime tous les deux d'ailleurs. Mais l'amour que je leur porte est différent. Moi-même, j'ai deux enfants. On les aime avec autant d'amour l'un que l'autre, mais c'est un amour différent. S'agissant de l'auto, il est difficile de se sentir proche d'un personnage aussi narcissique. Mais par ailleurs, il est fort charismatique. Donc, j'ai eu des sentiments pour lui. Parce que, en réalité, certes, il ne remet rien en question, ni lui-même, ni sa femme. Il ne fait pas beaucoup d'introspection. Mais je ressens une certaine pitié pour lui, mais je l'aime beaucoup. Je suis soulagé de ne plus vivre avec lui, parce que vous savez, pendant l'écriture de ce livre, j'ai vécu avec lui pendant 5 ans, et c'est épuisant de vivre avec un narcissique. Mais je l'aime beaucoup, l'auto.
Alors, ce personnage de l'auto, on se rend compte en suivant le développement du personnage dans le livre, Lauren Groff, que c'est en fait un homme qui aime l'amour que Mathilde a pour lui. C'est comme s'il s'aimait à travers le regard de cette femme qu'il a mise sur un piédestal, et sans être très curieux d'ailleurs, parce qu'il ne lui pose pas beaucoup de questions. Elle ne dit rien de son passé, et du coup, il pense qu'elle a commencé à vivre en le rencontrant. Elle est belle, elle est grande, elle est dans une très bonne université, ils se rencontrent tous les deux à Vassar, mais en fait, il n'est pas curieux du tout de la femme qu'il dit aimer éperdument. Donc il l'aime comme un miroir, mais il n'aime pas ce qu'elle est, parce qu'il ne sait pas qui elle est.
Il est dépourvu de curiosité intellectuelle envers sa femme. C'est ça, sa grande fêlure. Parmi les thèmes qui venaient à mon esprit, j'ai voulu m'intéresser à l'aspect corrosif et dangereux de la notion de privilège. On a donné à l'auto tout. Une peau blanche, le privilège le plus grand qu'on puisse avoir aux États-Unis, la richesse, la beauté, et puis la grandeur physique. C'est un homme grand en plus. Et le résultat, c'est que, à moins que l'on lutte contre ces privilèges en regardant autour de soi, et à moins d'avoir de la curiosité intellectuelle, eh bien, on ne mène pas une vie d'être humain pleine et entière. On devient simplement narcissique, parce que personne ne vous extirpe de ces privilèges. Et on assiste à cela à l'heure actuelle dans le domaine politique. Là, je tiens un propos politique. Il est urgent de parler de cette notion de privilège aux États-Unis aujourd'hui, car il y a un danger dans ces privilèges. Donc, très honnêtement, moi, je trouve que l'auto, c'est un personnage tragique, vraiment, parce que l'auto ne dispose pas de suffisamment d'introspection. Il aime le monde uniquement lorsque le monde est un miroir.
Lancelot, dans votre livre, Lauren Groff, passe par des déceptions. Il perd son héritage, puisque sa mère est tellement fâchée de son mariage qu'il n'a pas d'argent. Ensuite, il essaye d'être acteur. Il se pense très bon acteur. Ça ne marche pas. Et après, il devient dramaturge. Alors, on découvrira dans le livre que sa femme l'aide beaucoup ensuite à écrire ses pièces. Mais dans votre livre, vous ne vous contentez pas de dire qu'il devient dramaturge. Je vous donnais des extraits de ses pièces. Et c'est assez surprenant, parce que nous, on a plutôt tendance à trouver qu'elles ne sont pas extraordinaires, ces pièces. Elles sont très empoulées, très académiques, ou alors complètement absconses. Et pourtant, il devient un auteur à succès. Est-ce que par hasard, vous avez des comptes à régler avec les dramaturges contemporains ?
Peut-être, non, je plaisante. En fait, moi-même, je voudrais être dramaturge, mais ce talent-là, je ne l'ai pas. Mon cerveau est câblé pour le roman. Écrire des pièces de théâtre, c'est plus squelettique. Il faut vraiment voir tout jusqu'à l'os. C'est différent, le roman. Moi, j'adore le théâtre, pourtant. J'adore aller au théâtre.
I do think, you know, there's some danger in its becoming a less and less important art form.
Je pense que le théâtre est menacé de devenir un art mineur. En effet, le théâtre est cher, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer des places de théâtre. C'est un petit peu comme la poésie, poésie que j'adore aussi, mais la poésie se raréfie. L'accès à la poésie n'est pas si aisé pour tout le monde. Donc, des comptes à régler, non, mais pour répondre à votre question. Je pense que le théâtre est menacé de survie dans le millénaire à venir.
Alors, quand on s'enfonce dans votre livre, dans la première partie, Lauren Groff, on commence par le lire au premier degré, parce que le lecteur est assez naïf, donc il rentre dans un livre, on lui raconte une histoire, et il découvre cette histoire. Et puis, de temps en temps, par certains traits d'écriture, certaines pages, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, c'est une sorte de parodie du grand roman du 19e ou du début du 20e. En fait, vous racontez une histoire, mais à chaque fois, vous mettez des bâtons de dynamite à certaines pages. Dans la vie de Lancelot, il y a des moments où tout d'un coup, tout explose, il devient un personnage complètement ridicule et complètement grotesque, notamment le jour où il va donner une conférence à Palo Alto et où il se révèle être un macho, misogyne, candide, absolument insupportable.
Parfois, nous, les créateurs, nous sommes si narcissiques que nous croyons que notre mode de vie est le joyau de la couronne de l'humanité. Mais la plupart des dramaturges que je connais sont des ânes bâtés. Et leurs épouses sont de bien meilleures personnes. Elles sont plus gentilles, plus généreuses. Elles valent mieux qu'eux en général. Il y a de la noblesse à rendre la vie plus lisse, plus saine, plus confortable. C'est un choix au moins égal à celui de passer son temps à se regarder le nombril. C'est l'épouse, le dramaturge du mariage, celle dont le travail est essentiel à la production, même si sa contribution n'est jamais reconnue de manière directe. Il y a de la gloire à tenir ce rôle. À l'époque où j'étais comédien, je travaillais si peu que je prenais en charge pratiquement tout dans la maison pendant que Mathilde allait gagner l'argent du ménage. Il faisait la vaisselle, c'est juste. Enfin, il existe réellement une différence essentialiste entre les genres qu'il n'est pas politiquement correct de mentionner de nos jours. Ce sont les femmes qui portent les enfants après tout. Ce sont elles qui les nourrissent. Ce sont elles qui traditionnellement s'en occupent. Cela demande énormément de temps. Il sourit, attendant les applaudissements. Mais le vent avait tourné. Silence froid dans le public. Quelqu'un criait tout au fond de la salle. Mais qu'avait-il bien pu dire ? Pris de panique, il regarda Mathilde, qui baissait les yeux. J'adore les femmes. Toutes les femmes n'ont pas d'enfants. La mienne, par exemple. Enfin, pas encore. Mais écoutez-moi, on a tous un potentiel de créativité fini, comme on a une durée de vie finie. Et quand une femme décide de dépenser le sien en donnant la vie en vrai, pas de façon imaginaire, c'est un choix magnifique. Quand une femme a un bébé, elle crée tellement plus qu'un monde inventé, couché sur une page. Elle crée la vie même, pas un simulacre. Peu importe ce qu'a fait Shakespeare, c'est tellement moins que ce qu'a fait la femme lambda illettrée de son époque, qui, elle, avait des bébés. Ces bébés sont nos ancêtres. Ils furent nécessaires pour faire exister tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Et personne n'oserait prétendre sérieusement qu'une pièce de théâtre vaut une seule vie humaine. L'histoire même du théâtre corrobore mon propos. Si historiquement les femmes ont montré moins de génie créateur que les hommes, c'est parce qu'elles ont leur propre création intérieure et insuffle cette énergie dans la vie même. Appelons ça le génie du corps. Vous ne pouvez pas me dire que cela a moins de valeur que le génie de l'imagination. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les femmes ont la même valeur que les hommes. Elles sont souvent meilleures dans de nombreux domaines. Mais la raison de cette disparité dans la création, c'est que les femmes ont tourné leur énergie créatrice vers l'intérieur, et non vers l'extérieur. Les murmures semblaient de plus en plus rageurs.
Lauren Groff, en fait, vous avez écrit un livre terriblement féministe, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous nous montrez, avec une écriture apparemment sincère, ce que ça peut donner du côté de Lancelot.
J'ai une chose à vous dire. Tout cet épisode, je l'ai vécu. J'étais en compagnie d'un auteur très connu, dont je tairai le nom, et qui prétend être féministe. Après de nombreux verres de whisky, il s'est assis et il m'a déballé une théorie pour laquelle il n'y a pas de génie féminin dans l'histoire de la littérature. Ça m'a mis en colère, mais je n'ai pas eu de répartie. Et belle répartie, je l'ai eue vraiment bien plus tard, et c'est cet épisode qu'on vient d'entendre.
Mais d'ailleurs, il y a des indices tout au long de cette première partie qui traite de la vie de Lotto. C'est que de temps en temps, quand même, un doute effleure. il n'est pas stupide, Lancelot. Et de temps en temps, quand il a bu un peu et qu'il est déprimé, il se rend compte, notamment dans la page 76, c'est-à-dire assez tôt dans votre livre, je vais lire une phrase que vous avez écrite. L'auto se vit soudain tenu par 100 fils brillants, attachés à ses doigts, ses paupières, ses orteils, les muscles de sa bouche. Tous ces fils conduisaient à l'index de Mathilde, qui le bougeait avec une grande subtilité pour le faire danser. En fait, Lancelot, de temps en temps, se rend compte qu'il est devenu la marionnette heureuse et consentante de Mathilde. Et puis très vite, il chasse cette idée parce que ça ne va pas avec son personnage.
No, it frightens him deeply.
Oui, vous avez raison, ça l'effraie.
So, there are times when the curtain
parfois, le rideau s'entrouvre et il voit le mécanisme de tout ce travail de marionnettiste, mais il préfère vivre en paix. Et entrouvrir le rideau, c'est effrayant. C'est effrayant de s'apercevoir qu'on est la marionnette d'une autre personne.
Et Mathilde, elle,
n'a pas trop intérêt à entrouvrir le rideau non plus, parce que Mathilde, elle, ce qu'elle veut, c'est de la solidité. Elle veut une vie faite de calme, d'une richesse relative. Mathilde, elle se contente de vivre dans une maison à la campagne, point final. Donc, aucun des deux n'a intérêt à remettre en question la surface calme de leur amour.
It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then. Soon again, start another big riot. You blow a fuse, simple. The devil cuts loose, simple. So what's the use? Wow! Of falling in love. We'll be right back.
Lauren Groff, dans ce livre qui en français s'appelle « Les Furies », alors que dans le titre original, il y a la première partie « Fates » qui concerne Lancelot, la deuxième partie « Furies » qui concerne Mathilde, tout d'un coup, le lecteur se rend compte que depuis le début, vous le menez par le bout du nez et que vous êtes en train d'écrire un livre complètement différent que ce à quoi il s'attendait. C'est un livre plein de colère, de rage, celle qui habite Mathilde. En fait, les furies, elle est l'une d'entre elles. Mais on a l'impression pour vous que les furies, ce sont des personnages qui ne sont pas forcément entièrement négatifs.
Non,
moi j'aime la furie. C'est un feu purificateur. Les gens qui arrivent à faire des choses, ce sont les gens qui sont guidés par la furie. Les gens qui savent vraiment mettre toute leur attention sur ce qu'ils peuvent changer. Une espèce de colère froide. Mathilde, c'est une femme en colère, très profondément. Je ne veux pas généraliser, parce qu'à l'évidence, je ne décris que deux personnages de fiction. Mais je dirais que mes amis autour de moi, mes amis, eux, sont pleines d'une colère non exprimée, parce que c'est un tabou. Les femmes n'ont pas le même droit à la colère que les hommes, du moins les hommes blancs, parce que les hommes dont la peau est quelque peu foncée n'ont pas le droit d'exprimer leur colère. Imaginez Barack Obama se mettre en colère. Impossible. Bon. Donc, Donald Trump, lui, tous les jours, sur Twitter, il montre sa colère. Hillary Clinton, c'était son problème d'ailleurs. Elle n'avait pas le droit d'exprimer toute la force intérieure de sa furie. Et c'est une personne en colère. Comment être une femme aujourd'hui sans colère? Parce qu'on est sans arrêt en train de se battre contre les forces négatives de la société. Donc, très honnêtement, je pense que Mathilde est un modèle pour moi. Je ne suis pas comme elle du tout, mais j'aime la façon dont Mathilde exploite sa rage comme un levier pour arriver à ses fins.
Dans cette deuxième partie de votre livre, Lauren Groff, on va donc découvrir à la fois le passé de Mathilde et sa lecture de son mariage avec Lancelot. On découvre d'abord qu'elle l'aime très sincèrement, qu'elle n'est pas calculatrice au point d'avoir épousé simplement un héritier, même si à l'époque il n'avait pas d'argent. Elle l'aime passionnément, mais elle est habitée par la culpabilité. C'est une jeune femme qui, lorsque elle rencontre Lancelot, a déjà un passé. Lui, la voit comme l'expression même de la pureté absolue. Il la croit vierge, il croit qu'avant, elle n'a fait qu'attendre, comme dans Blanche-Neige, ou comme dans tous les contes où la jeune femme attend de rencontrer le prince charmant. Mais on découvre très vite que c'est une grande lectrice, et à la page 271 de ce livre, vous parlez des goûts de lecture de Mathilde et vous écrivez « Les livres la laissaient sur sa faim. Elle était lasse de cette façon conventionnelle de raconter des histoires, ses schémas narratifs éculés, ses intrigues touffues, sans surprise, ses gros romans sociaux. Il lui fallait quelque chose de plus désordonné, de plus affûté comme une bombe qui explose. » Là, ce sont vos goûts et c'est vous nous donnez un indice sur ce que vous avez voulu écrire comme livre. Un livre qui explose.
Yes, that's exactly what I wanted to write.
Oui, c'est exactement ça. Je voulais écrire une bombe.
I actually wanted to write something that was
that snuck up on you. Que mon texte soit insidieux. Dans la première partie, on se dit, ah, c'est un récit, vous connaissez ça. Ensuite, je voulais progressivement mettre des bâtons de dynamite, comme vous avez dit. J'ai été très influencé par l'écriture féminine. Et je suis très intéressé par les écrivaines telles que Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, parce que j'ai étudié le français et la littérature française à la fac. Et je suis dingue de cette furie que ces écrivaines distordent le récit. C'est une façon très intéressante de traiter des préjugés dont nous étions pétris. Mais cela, on ne le retrouve que très rarement dans la fiction américaine ou britannique. Il y a certes écrivains ou écrivaines étonnantes. Amir McBride, Voilà, une écrivaine formidable, elle, son écriture est fracture, squelettique, elle va à l'essentiel. Mais en tant qu'écrivain, nous avons une caisse à outils avec tout à notre disposition. Et si on veut parler de la rage féminine, pourquoi ne pas utiliser les outils de la rage féminine? Il faut ouvrir ce monde qui est sombre, pétri de tabous. Voilà un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Moi, j'aime cette idée que la littérature peut être une bombe, une explosion maîtrisée, certes.
Et d'ailleurs, Mathilde, lorsqu'elle va se retrouver veuve, va relire sa vie et la colère va l'envahir.
Mathilde avait 46 ans. Elle était trop jeune pour tracer un trait définitif sur sa vie amoureuse. Elle était encore dans la fleur de l'âge, belle, désirable. Et cette fois, célibataire pour de bon. Cette histoire ne correspond pas à ce qu'on nous raconte d'habitude au sujet des femmes. L'histoire des femmes, c'est celle de l'amour, de la fusion avec l'autre. Légère variante, le désir de fusion n'est pas réalisé. Abandonnée à elle-même après cet échec, la femme prend les choses en main. Mort au rat, ou roue d'un train russe. Même la version plus douce, plus lisse, n'est qu'une légère variante de la première. Dans les classes populaires, comme chez les Bourges, c'est la promesse de l'amour dans le grand âge pour toutes les gentilles filles du monde. Le bonheur des corps anciens à l'heure du bain, les mains tremblantes du mari savonnant les seins desséchés de sa femme, une érection émergeant soudain de la mousse à la manière d'un périscope rose. Je te vois. Et puis les longues promenades, cas un cas, sous les platanes, des histoires entières dans un regard en coin, un mot résumant tout. Fourmilière, dirait-il. Martini, déclarerait-elle. Et l'épais courant de la vieille blague les emporterait. Le rire, cette superbe réverbération. Puis d'un pas incertain, fatigué, aller dîner tôt dans un restaurant, regarder un film en somnolent, main dans la main. Leurs corps, tels des bâtons noueux enveloppés de vélin, l'un couchant l'autre sur son lit de mort, avant de s'envoyer une overdose de médicaments pour mourir le lendemain, le monde n'ayant plus d'intérêt après la perte de l'être aimé. Oh la complicité, oh l'amour, oh l'accomplissement de soi, pardonnez-lui d'avoir cru qu'il en serait ainsi. Elle avait été amenée à cette conclusion par des forces qui la dépassaient. L'amour triomphe de tout. Vivre d'amour et d'eau fraîche. L'amour est enfant de bohème. Pareil au maïs qu'on fourre dans le gosier des oies, les filles avalent ce genre de conneries dès qu'elles sont en âge de s'habiller de tulle. D'après toutes ces vieilles histoires, la femme a besoin de l'autre pour être complète, pour atteindre son potentiel maximal.
Lorraine Groff, il y a Anna Karenine et Emma Bovary qui sont citées. Elle a lu beaucoup de choses aussi, Mathilde. Mais il y a La femme flouée de Simone de Beauvoir. On fourre dans le gosier des filles, comme le maïs dans le gosier des oies, les idées sur le mariage et la complétude que l'on cherche dans l'autre. En fait, Mathilde, c'est une petite fille de Simone de Beauvoir.
She is, but she's also a daughter.
Oui, c'est vrai, mais c'est également une fille du monde, de la société dans laquelle elle a grandi. Mathilde, c'est la fille des événements qu'elle a vécu et que je ne dévoilerai pas. Mais il y a tant de forces qui s'exercent de partout sur Mathilde qu'elle devient une créature déformée de l'intérieur. Mais au fond d'elle-même, je pense qu'elle est véritablement féministe, bien qu'elle prenne des décisions qui soient antiféministes, bien des fois. Mais ce sont les seuls choix qu'elle a à sa disposition pour survivre. Parce qu'en fait, je voulais aller à l'encontre de cette tendance où on voit une femme en colère se tuer. Antigone se pend. Bon. Anna Karenine, elle se suicide, Emma Bovary aussi, mais ce n'est pas nécessairement réaliste. Cela, ce sont des peintures de femmes faites par des hommes. Moi, je ne pense pas qu'une rage puisse être aussi tournée vers l'intérieur. En réalité, cette rage peut s'exprimer vers l'extérieur. Mathilde est une petite fille de Simone de Beauvoir. C'est également une fille des influences littéraires. Et elle est française, Mathilde, au fond d'elle-même. Au fond d'elle-même, elle est de nature française. Elle a certes un vernis américain américain, au sein d'elle-même, il y a cette force linguistique et culturelle française qui détermine ses actions.
Mais Lorraine Groff, vous lui avez là aussi, on sent que vous êtes amusé, imaginé un passé dont on ne parlera pas, mais qui fait penser à beaucoup de passés des romans populaires français du 19e siècle où tous les malheurs arrivent à quelqu'un. Absolument tous. Elle est salie, elle pourrait se perdre et en fait, elle va renaître. Là aussi, vous vous êtes amusé en imaginant sa vie, tous ses secrets, c'est-à-dire toute cette vie cachée, comme la partie cachée d'un iceberg, que son mari ne découvrira jamais et que le lecteur va découvrir. C'est presque, on devient presque caricatural.
J'espère que non, mais en tout état de cause, j'aime beaucoup Dickens, j'aime beaucoup ces outils. Là encore, c'est un autre outil, mais vous avez raison. J'ai eu tant de plaisir à écrire ce livre. Je le considère comme un opéra. Et dans l'opéra, il y a des choses plus vraies que nature. Dans tous les opéras, il y a un ou deux morts, au moins. Les choses sont si mélodramatiques dans l'opéra. Dans ce roman, les furies, je me suis lâché en fait parce que je voulais réagir à mon livre précédent qui est beaucoup plus intériorisé. C'est un livre assez sombre sur l'apocalypse en fait. Mais cette fois, je voulais de la couleur, de la vie, je voulais de la sexualité, je voulais de la rage, de la furie, de la colère. Autrement dit, il y a des moments mélodramatiques, j'en conviens, mais ça, c'est une forme littéraire à part entière, à mon avis.
Alors, Mathilde, à la fois, a ses secrets qui lui tiennent lieu aussi de colonne vertébrale, parce que tout ce que Lancelot, son mari, ignore d'elle, est sa force, finalement, ce qui fait sa force. Mais en même temps, on découvre que l'amour qu'elle portait à Lancelot était un véritable amour désespéré, absolu. Contrairement à beaucoup de femmes de grands hommes que vous citez dans le livre, elle ne revendique pas sa place dans le couple. Elle ne dit à personne qu'elle retravaille les pièces de son mari la nuit. Elle ne dit à personne tout ce qu'elle fait pour que devant lui, la route soit aplanie. Et vous citez ce livre merveilleux d'Alistoclas à propos de Gertrude Stein. Quand, après la mort de Gertrude Stein, Alistoclas, enfin, sous la plume de Gertrude Stein, écrit « Je ne suis rien qu'un souvenir d'elle ». C'est une phrase terrible, mais c'est ce que Mathilde ressent à la mort de son mari. Elle n'est plus qu'un souvenir de Lancelot. Mais au lieu de disparaître, puisque sa raison de vivre a disparu, c'est là qu'elle va devenir une furie et exercer une vengeance qui d'abord se tourne contre elle, parce qu'elle se dévore elle-même, avant d'essayer de se venger du reste du monde.
Absolutely. I love Mathilde. And you know,
Mathilde, encore une fois, je l'aime. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut que je la défende parce qu'il y a bien des gens qui veulent que les personnages féminins reflètent leur propre nature. Pourquoi lisons-nous des livres? Pas pour aller nous chercher nous-mêmes. Je ne pense pas. Du moins, nous ne sommes pas tous comme ça. Pour revenir à Mathilde, c'est un personnage qui ne devient pas elle-même avant la disparition de son mari. S'ils avaient pu vieillir ensemble, Mathilde n'aurait pas pu arriver à cette réalisation d'elle-même qui l'intéresse le plus. Ce n'est que seule, face à sa solitude, qu'elle est très profondément capable de faire n'importe quoi. Donc, il y a là.
I guess her life with Lotto kept her in
une
role
description de la
Nabokov,
vie
right?
avec Lotto qui était comme la vie de Vera Nabokov. Nabokov, c'était pour moi une sorte de modèle, de patron dont je me suis servi pour décrire Mathilde. Vera Nabokov, artiste à part entière, elle a tout fait pour Vladimir. C'était la plume de Nabokov conférencieux. Elle a écrit tous ses manuscrits. Elle a tout tapé à la machine. Elle a peut-être apporté des modifications, qui sait. Elle a facilité la vie de son mari, l'auteur Vladimir Nabokov. Et en moi, il y a un élément de frustration parce qu'elle n'a pas été reconnue. En même temps, il y a tant de beauté dans le fait qu'elle ait pu aider Nabokov à devenir l'homme qu'il est devenu. Que se serait-il passé si ce personnage dans l'ombre arrive dans la lumière? Qu'allons-nous voir, nous, témoins de cette révélation d'une personne si discrète et pourtant si brillante?
Lorraine Groff, on sait bien que les mariages sont plus définis par leurs secrets que par leurs évidences. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mathilde est la personne qui a le plus de secrets. L'auto a l'air d'être un homme dont on sait tout, on connaît tout, il montre tout de lui. Et puis pourtant, il a un secret qu'on découvrira au milieu du livre, dans une scène étonnante où il s'intéresse à l'opéra. Et en fait, c'est un secret, dit-il, qui le carboniserait si les gens le savaient. Un secret si profondément enseveli que même Mathilde l'ignorait. Et en fait, Mathilde, qui pense qu'elle était la seule à mentir par omission, ne saura jamais que le secret aussi est dans les personnages les plus apparemment limpides.
We all have secrets, and if we don't, we probably don't.
Nous avons tous des secrets. Sans secret, nous ne sommes pas des êtres autonomes.
Moi,
je résiste aux modèles thérapeutiques modernes où on doit révéler l'ensemble de son âme à la personne avec qui on partage la vie. C'est dangereux de faire ça. Mais c'est pas la peine d'avoir des secrets comme Lotto et Mathilde, pour autant. Mais il est bon de garder un jardin intérieur, d'avoir en soi un petit quelque chose autour duquel on fait grandir sa propre âme.
Merci beaucoup, Lorraine Groff, d'être venue aujourd'hui nous parler de ce livre donc, qui vient de sortir aux éditions de L'Olivier, Les Furies, traduit par Karine Chichereau, un livre que Barack Obama vous recommande de lire. Merci à vous et merci à Xavier Combe, bien sûr, pour nous avoir permis de nous entendre aujourd'hui.
Merci. Enchantée, merci bien.
Merci, Lorraine Groff.
Life it is heaven in the back of my head. The future no past, the laws of time. Can undo what is happening when I close my eyes.
Lumière Vagabonde de ce jour, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dimanche prochain. Je recevrai Colette Fellows, qui publie son dernier roman, Pièce détachée, chez Gallimard. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bon dimanche, à l'écoute de France Inter, bien entendu.